À partir de mercredi jusqu'à dimanche, Péléas et Mélisande, l'opéra de Claude Debussy, est à l'affiche de l'opéra de Dijon. Une œuvre présentée comme, alors c'est une citation, l'un des sommets des opéras français. Pourquoi Criault chef-d'œuvre? Eh bien, cette question, je la pose à Vincent Letexier qui est en ligne. Et je vous la pose avec d'autant plus d'intérêt quant à la réponse et d'autant plus de liberté quant au fait de poser la question que vous connaissez bien cette œuvre de Debussy.
Oui, c'est vraiment l'œuvre qui m'a accompagné depuis mes tout débuts, puisque la première fois que je l'ai interprétée, c'était à Moscou, sous la direction de Manuel Rosenthal, grand chef et grand compositeur français, maintenant bien sûr décédé, mais élève de Ravel. Donc pour moi, c'était quelque chose d'incroyable de faire mon premier Péléas et Mélisande avec cette tradition en droite ligne, puisque Rosenthal était donc l'élève de Maurice Ravel. Depuis, ce rôle ne m'a jamais quitté. J'ai vécu des moments... Alors, je parle de ce rôle, mais il faut que je précise, puisque ce rôle, c'est Golo. Et depuis le début, Golo est le rôle que j'ai le plus interprété, le plus souvent. Il a toujours accompagné ma carrière.
Quoi. Mais ce n'est pas le rôle que vous interpréterez à Dijon. On va y revenir dans un instant. Revenons au chef-d'œuvre. Pourquoi chef-d'œuvre?
Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Péléas et Mélisande, c'est absolument unique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à Péléas et Mélisande, ni avant ni après. Il a influencé évidemment énormément de gens, mais on ne peut le comparer à aucun autre opéra. Cette unicité signe déjà un chef-d'œuvre. On pourrait, ça suffit pas évidemment. Mais la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire que il y a une adéquation entre la musique et le texte que Debussy a choisi, le texte de Maeterlinck, qui est absolument unique. Quand Richard Strauss a voulu réaliser la version française de son Salomé et revenir au texte initial d'Oscar Wilde qu'il avait écrit en français, il est allé demander conseil à Romain Rolland, et Romain Rolland lui a dit: si vous voulez entendre le nec plus ultra de la prosodie française, allez écouter Péléas et Mélisande. Et Salomé, c'était 1905, Péléas, la création, c'est 1902. Ça a marqué complètement les esprits, et évidemment, il y avait des gens qui supportaient pas ça, qui supportaient pas le texte de Maeterlinck, qui est très spécial, mais moi, connaissant tellement bien cette œuvre, je ne peux absolument d'aucune manière imaginer que cette musique aille avec un autre texte. Du coup, je me souviens très bien que lorsque j'ai préparé la première fois Péléas et Mélisande, donc en vue de ce concert à Moscou, et c'était à l'époque la création de Péléas et Mélisande en URSS, puisque j'étais encore étudiant, c'était en 88. 86 ans après, l'URSS n'avait pas entendu ce chef-d'œuvre. Je me rappelle, il y avait Sviatoslav Richter dans le public, enfin c'était un moment inoubliable, et j'avais préparé mon premier Golo, donc avec une très très grande chef de chant qui s'appelait Simone Feja, qui a été ma belle école d'art lyrique. Son conseil principal, c'était d'être le plus exact possible par rapport à l'écriture de Debussy, et voilà, et de respecter absolument, rythmiquement, notamment, tout ce qu'il avait écrit d'une manière très 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 précise, quoi. Après, on peut parler de l'orchestration, évidemment, qui est merveilleuse. Bon, voilà. Moi, je me lasserai jamais d'entendre cette musique, que je chante Golo ou que je chante Barkel. C'est un plaisir sans nom.
On va commencer par le début, en vous écoutant, justement, Vincent Letexier. Alors, dans le rôle de Golo, puisque vous n'avez pas enregistré d'Arkel, évidemment, on est dans la forêt et c'est le moment où Golo rencontre Mélisande.
Je ne pouvais plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Je veux sur mes pas. J'entends pleurer. Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule?
Ne me touchez pas, ne me touchez pas.
N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle.
Vincent Le Texier avec Elina Talagova. C'est un enregistrement que vous avez effectué il y a quelques années. Alors ne racontons pas l'histoire, mais tout de même, alors c'est une tragédie, et c'est une tragédie qui ne se finit pas à l'américaine, c'est-à-dire que tout ne se termine pas bien à la fin. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ben, vous savez, ça commence mal de toute façon, parce qu'on voit bien que ce royaume, le royaume d'Almonde, le royaume que gouverne Arkel, justement, est un royaume tout à fait pourri et qui prend l'eau. Et même si Arkel a l'espoir que l'arrivée de Mélisande change ça, ça va pas être le cas, en fait. Arkel est très, 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 très vieux. Il n'y a personne pour reprendre les rênes. Effectivement, ça ne se termine pas bien. Et c'est un opéra assez noir, assez sombre, assez très dramatique, évidemment, mais magnifié par cette musique incroyable de Debussy.
Vous avez longuement parlé de la musique, et ça se comprend, mais qu'est-ce qui vous attire dans l'ambiance elle-même de l'opéra et dans les mises en scène, puisque vous avez côtoyé un certain nombre de metteurs en scène, y compris alors dans ce rôle d'Arkel avec Barikowski, qui était à l'opéra de Dijon, mais pour toute autre chose, au printemps dernier. Qu'est-ce qui vous attire en plus, alors, parce que c'est une ambiance noire, c'est difficile, c'est...
Oui, c'est une ambiance noire. Bon, mais je vous dis, on est pris. À chaque fois que je retrouve cette musique, je suis complètement fasciné par elle. C'est souvent ça en art, hein. Même les choses les plus noires, les plus terribles, les plus dramatiques sont magnifiées par la forme que leur donne le compositeur. En l'occurrence, puisqu'on parle de musique. Les deux rôles, par exemple, de Golo et d'Arkel sont évidemment très opposés. Le rôle de Golo est très dramatique. C'est un homme qui cherche, après la mort de sa femme, à se sortir du gouffre, tourmenté sans doute par le pouvoir que Arkel voudrait lui confier sur ce royaume très mal en point. Alors qu'Arkel, lui, à moitié aveugle, est très ambigu. Pour moi, en tout cas, je n'ai jamais considéré Arkel comme simplement le vieux sage qui saurait tout sur la vie, etc. Au contraire, je pense qu'Arkel a fait beaucoup d'erreurs. Et si Metterlin et Debussy l'ont fait presque aveugle, évidemment, on est en plein symbolisme, donc ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a plein de choses sans doute qu'il ne veut pas voir ou qu'il ne peut pas voir. C'est sans doute ainsi qu'il amène son royaume à la destruction.
Si, si, je le ferme la nuit. Vincent Le Texier, si on regarde un tout petit peu ce que vous avez eu l'occasion de chanter, enregistrer ou pas, on va dire que vous pouvez chanter de la musique baroque à la musique contemporaine, en passant par Mozart et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui vous attire dans un projet, vraiment ? C'est la musique, c'est un peu le théâtre aussi ?
C'est les deux, c'est pour ça que je fais de l'opéra, c'est pour ça, c'est ce qui me plaît dans l'opéra, c'est qu'on n'est pas seulement une voix, un chanteur, on est aussi un interprète, un acteur, et pour moi, une production réussie, c'est celle qui arrive au plus haut niveau sur les deux, dans les deux domaines. J'attends du chef d'orchestre et du metteur en scène, évidemment, qu'il m'emmène très loin, qu'il me propose quelque chose de fort, même si, à la rigueur, je ne suis pas forcément d'accord avec le point de vue.
Ça vous arrive de dire non à un metteur en scène ?
Non, parce que d'une manière générale, moi, je suis très ouvert et j'ai toujours espoir que ça va être intéressant et que je vais apprendre encore des choses. C'est ça que j'attends d'un chef et d'un metteur en scène, surtout sur une œuvre comme ça que je connais si bien, c'est qu'il m'amène, il me fasse encore découvrir des nouvelles choses. Après, il y a des metteurs en scène ou des chefs avec qui j'ai plus ou moins envie de retravailler. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est formidable parce qu'on a Nicolas Kruger qui est vraiment un grand amoureux de cette œuvre et qui amène un point de vue vraiment très, très intéressant, je trouve, sur l'ouvrage. Et donc ça, c'est formidable. Et puis la mise en scène, même si c'est une reprise de la mise en scène d'Eric Ruff, la mise en scène en elle-même est très, très intéressante aussi, vraiment très belle aussi visuellement, je trouve, ce que j'ai pu en voir de l'extérieur. Je connaissais Eric parce qu'on a... On a participé tous les deux à un spectacle, c'est Jeanne d'Arc au bûcher de Honegger, à Montpellier, je crois, à l'époque.
Et Montpellier, vous serez d'ailleurs dans quelques mois avec de nouveau le rôle d'Arkel.
Avec à nouveau Arkel. Et il était acteur sur ce coup-là, il n'était pas metteur en scène, mais voilà, on s'est connus comme ça.
Et lui, homme de théâtre, évidemment. Et vous, homme de musique.
Moi, je me sens pas seulement homme de musique, je me sens aussi homme de théâtre. J'ai une expérience toujours sur Pelléas et Mélisande qui a été fondatrice pour moi. C'est ce qu'on a appelé les impressions de Pelléas de Peter Brook. C'était au début de ma carrière et Peter Brook a voulu faire sa version un peu de Pelléas et Mélisande en l'amenant évidemment beaucoup vers le théâtre, mais l'essentiel était évidemment conservé. Et pour moi, je dis toujours, il y a un avant et un après Brook parce que j'ai appris énormément sur ce qu'était justement d'être dans la justesse d'un personnage, dans sa vérité. Du coup, surtout à partir de ce moment-là, je me suis jamais senti uniquement chanteur, je me suis toujours senti les deux.
Je vais ajouter encore un mot, mais ce sera vraiment le dernier, vous êtes aussi un passionné, mais ça, on l'a vraiment entendu. Pelléas et Mélisande à l'Opéra de Dijon à partir de ce mercredi jusqu'à dimanche. Détails des représentations, location si on le souhaite, au 03 80 48 82 82 ou sur internet opéradijon.fr.